De retour sur la rage, donc toujours 97.4 FM, où nous retrouvez aussi sur le site internet www.la-rage.fr. Pour une question d'enregistrement, je vais simplement recommencer en fait ce que j'ai pu dire juste avant le morceau musical, comme pour qu'on ait en fait une trace propre pour que vous puissiez l'entendre de manière correcte par la suite. Donc, nous voici sur la rage aujourd'hui pour parler donc de la question du jour. La question du jour qui est donc Truy est-il un milieu rural ou un milieu périurbain ? Autour de la table aujourd'hui, nous avons donc Adeline Fouquet. Bonjour Adeline.
Bonjour Benjamin, l'animatrice de l'accueil jeune d'Èvre. Je le dis avant que tu le dises.
C'est ça. Mais non, mais moi je déroule sinon. Hein. Et donc Julien Crapard, qui est donc notre ostéopathe à Truy.
Bonjour.
Bonjour Julien. Donc l'émission va se découper en fait en deux parties. On va avoir une première partie avec donc Julien, où on va être à trois autour de la table. Se joindra à nous donc Madame de Colbert vers 17h30 afin de nous apporter une autre lumière. Disons qu'en fait Julien représente la santé, Madame de Colbert représentera finalement le marché de l'emploi ou l'emploi en général. Et ensuite, vers 18h15, on aura deux autres invités qui arriveront, donc monsieur et madame Thibault, qui seront là pour représenter la culture. Pourquoi est-ce qu'on a des représentants sur chaque thématique ? Parce qu'en fait, une fois qu'on aura réussi ensemble à définir si donc Truy est plutôt rural ou plutôt périurbain, on abordera les avantages et les inconvénients de ce même milieu par rapport à ces différentes thématiques. Du coup, je change le truc, je fais en même temps je fais deux choses à la voix. Je me perds complètement, excuse-moi. Julien.
Oui.
Julien, est-ce que donc, tu pourrais nous présenter un petit peu qu'est-ce que tu fais, qui es-tu, d'où tu viens ?
Voilà. Donc, Julien Crapard, je suis ostéopathe diplômé depuis 2012. Donc j'ai fait mes études, mes 5 ans d'études sur Nantes. J'ai exercé là-bas avec différents collaborateurs, dont des kinés, des ostéopathes, pour entre guillemets m'enrichir et développer, on va dire, mon expérience personnelle. Je suis originaire de la région de Tours, plutôt du côté nord, sur le Saint-Cyr-sur-Loire. Bon, a priori, l'étude de marché m'a plus conduit vers le sud. Donc même si Truy faisait un petit peu peur au début pour m'installer, au final, je pourrais peut-être répondre bientôt prochainement à ta question, mais c'était plutôt un bon choix.
Et alors oui, du coup, effectivement, ça, en même temps, ça induit la question, pourquoi Truy ?
J'ai fait honnêtement la recherche cet été sur différentes communes.
Ouais.
J'ai pu tomber sur Monsieur de Colbert, qui était au final un maire très gentil, qui m'a plutôt aidé à m'installer, m'a fait part de différents projets. Projet de faire venir des professionnels de santé qu'il n'y avait pas sur Truy. Donc l'idée m'intéressait de m'installer plus tard avec des médecins et des kinés.
D'accord, très bien. Et donc en fait, oui, parce qu'il y a cette histoire de, comment on appelle ça, d'infrastructure un peu plus haute là, effectivement.
Alors,
un pôle santé ou quelque chose comme ça.
Voilà, donc la forme juridique n'est pas établie encore. Ça peut être une maison pluridisciplinaire de santé, un pôle santé, ça peut être une SCI avec une réunion différentes professions. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr, honnêtement. C'est en cours de développement.
D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'ostéopathie ? Parce que ça reste quand même une discipline médicale qui est donc pas méconnu, mais moins démocratisé, on va dire.
Oui, tout à fait. Oui.
Et donc du coup, on a sûrement des auditeurs qui ne savent pas vraiment finalement qu'est-ce que tu fais.
Ah oui, sûrement, oui. Alors, la profession, on va dire qu'elle est nouvelle en France. La loi l'autorise depuis 2002 et le décret depuis 2007.
D'accord.
Ça reconnaît notre profession.
C'est quand même super récent du coup.
Récent en France, hein, depuis ouais, bien plus longtemps aux États-Unis, ça existe depuis la fin 19e.
Ah oui.
Enfin, en tout cas, la reconnaissance de cette profession. En Angleterre, c'est pareil, c'est plus ancien.
Mm-hmm.
En France, c'est plus récent. Donc, L'ostéopathie, alors la définition, c'est on remet la, on va dire la mécanique en marche, c'est on remet la qualité et quantité de mouvement. Donc ça peut être un exemple tout simple, un torticolis, quelqu'un qui se lève un matin et de manière tout bête se bloque, a une dysfonction, souvent ce qu'on appelle dysfonction, c'est un blocage pour nous. Donc une restriction de mobilité en qualité et quantité, tourne moins bien la tête à droite ou à gauche ou les deux. Donc nous, on vient remettre cette structure correctement en place. On vient relâcher le musculaire qui est d'un côté sûrement plus étiré que l'autre et qui vient, par contraction réflexe, se spasmer, se tendre et s'inflammer et responsable de la douleur. Donc ça, c'est un exemple assez simple, mais ça peut être valable pour n'importe quelle structure.
D'accord. Et forcément, question qui vient également avec, quelle est la différence entre un kinésithérapeute et un ostéopathe?
C'est une question qui peut être intéressante.
je te remercie.
Alors, des fois, il n'y en a pas, assez rarement, dans le sens où un kinésithérapeute a la possibilité, après ses 3 ans d'études en France ou 4 ans en Belgique, ça dépend, de se former en formation, ce qu'on appelle continue, donc il continue d'exercer sa profession, et à côté de ça, sous forme de séminaires, d'un certain nombre d'heures, de stages et de formations dans les écoles, de valider son diplôme d'ostéopathe. Donc ce qui est complémentaire, mais il voit entre guillemets les bases de l'ostéopathie. Donc c'est un nombre d'heures, je l'ai pas en tête, mais assez court par rapport à mes, par exemple à mes 5 ans d'études, où on fait dans les 4800 heures environ, plus les stages. Par contre, le kiné, certains, on va dire plus honnêtes, font la formation, ce qu'on appelle initiale, et font donc leur profession de kiné et la formation complète d'ostéopathe. Donc là, il n'y aurait plus vraiment de distinguo possible.
D'accord.
Mais la plupart, malheureusement, font la formation continue, apprennent que les bases de l'ostéopathie véhiculent une image de notre profession plutôt sur les facettes de je fais craquer, je remets en place et la séance dure généralement moins longtemps. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le débat, Benjamin, mais il y a des kinés qui pratiquent très bien l'ostéopathie, d'autres pas moins bien, mais effectivement, s'il fait 90%, 95% de kinés et 5% d'ostéopathie sur sa patientèle, forcément, il aura moins d'expérience et moins de... peut-être d'efficacité, ou ce ne sera pas une séance d'ostéopathie, puisque nous, les séances d'ostéopathie, c'est des séances qui durent assez longtemps, puisqu'on ne fait pas que le symptôme, que le blocage, la conséquence du problème. On essaye de s'intéresser justement à tout ce qui a pu arriver au patient par rapport à son quotidien, sa profession, ses antécédents personnels, médicaux. Mm-hmm. Il a pu avoir de nombreux accidents qui entraînaient différentes lésions sur son corps qui, plus tard, peuvent se réveiller. Mm. Une perte de mobilité à un certain niveau, je ne sais pas, après un accident, le coup du lapin. Donc, ces personnes-là seront plus sujets à avoir un suivi ostéopathique plus tard, quoi.
Et ça, c'est plus finalement une forme de démarche. Enfin, je sais que j'ai eu, si tu veux, ce suivi-là avec justement un kiné que je connaissais sur Tours, qui effectivement, avant même de qui me touche, en fait, il a d'abord regardé ma posture, etc. Et un peu sur la même forme de questions. Là, c'est plutôt, j'ai l'impression qu'on parle de professionnalisme, hein, entre quelqu'un qui s'intéresse vraiment à son patient. Et qui prend vraiment le temps d'arriver à comprendre qui c'est, quels étaient ses mots, et donc d'y répondre.
Oui,
avec celui qui va simplement traiter le symptôme, effectivement, comme tu dis, sans forcément aller chercher beaucoup plus loin, quoi.
Non, mais ça, justement, ton kiné devait être un bon kiné ostéopathe. Le kiné seul ne s'en occupera pas, il s'occupera juste de faire, on va dire, je sais pas, de la rééducation.
Il est kiné et il est spécialisé en chaîne musculaire, donc je sais que ça, apparemment, c'est en lien avec le reste, mais.
Alors le terme nettement chaîne musculaire, je ne connais pas ce type de formation. Ça va être les spécifiques des kinés, mais je ne pense pas qu'il soit du coup kiné-ostéopathe, sinon il l'aurait dit, il aurait dû l'afficher.
Tout à fait.
Mais ça devait être probablement un bon kiné, un kiné qui doit faire beaucoup d'heures et qui s'intéresse à ses patients. Parce que maintenant, beaucoup de kinés font ça un peu trop à la chaîne, c'est ce que les patients en tout cas nous relatent.
Oui, tout à fait.
Mais s'intéresser à l'origine du problème, c'est que ça devait être un bon praticien. Donc, mais en général, la plupart des kinés ne font pas ça, puisque c'est sous ordonnance. Donc le médecin lui dit, voilà, vous faites 15-20 séances pour votre rééducation d'entorse de cheville, si vous voulez. Et il fait ça.
Je voulais savoir, je te coupe.
Vas-y.
Benjamin, tout à l'heure, donc je peux tutoyer ?
Bien sûr, oui.
Julien, du coup, tu disais que effectivement l'ostéopathie était mal vue encore en France parce que voilà, faut pas y aller, ça fait craquer. Et je pense qu'on l'a tous entendu, donc moi la première. Et je voulais savoir ce que tu pouvais répondre à cela. Est-ce que oui ou non, ça fait craquer ? Est-ce que c'est bon pour le corps ? Enfin voilà, qu'est-ce que pourrais-tu dire en fait pour rassurer finalement les gens ?
Alors, c'est une question qui est assez récurrente hein, dans notre profession, intéressante aussi. Faire craquer, souvent les gens qui viennent et qui ont cette appréhension, donc il y a deux catégories, il y a ceux qui ont vécu une mauvaise expérience, où ça a été un petit peu douloureux, alors peut-être qu'il est venu trop en période inflammatoire et que le praticien y allait peut-être un peu trop sèchement. En vérité, le craque en soi n'est pas douloureux. C'est juste des petites bulles de gaz qui passent de l'état liquide à gazeux, hein, du gaz carbonique, quand il y a une décoaptation d'une facette articulaire.
Là, ça y est, tu parles chinois, là.
Excusez-moi. Excusez-moi, je vais reprendre avec des mots, on va dire, un peu plus simples. Quand on a une structure qui est bloquée, c'est un peu bête, mais si elle doit aller à 30 degrés de rotation, votre cervicale, et qu'elle n'y va pas, nous on va chercher la barrière où elle bloque, on relâche un petit peu cette barrière-là, et on envoie une impulsion, ce qu'on appelle un thrust, donc une technique qui fait craquer justement, mais avant ce qu'on appelle la barrière motrice. Ce qui fait qu'en fait, quand on a mis la mise en tension, ça tire pour le patient, on relâche un petit peu pour qu'il n'y ait aucune douleur, et on surprend l'articulation. Donc là, si le praticien vous a fait mal, c'est qu'il a mal respecté cette barrière motrice.
Donc, l'ostéopathie n'est pas mauvaise pour la santé.
Donc, l'ostéopathie n'est pas mauvaise pour la santé. En plus de ça, je réponds à votre deuxième question que vous me disiez, est-ce que c'est bien de se faire craquer, je crois, souvent, quoi que ce soit. Alors là, je vais vous répondre mon point de vue personnel, qui est le point de vue de certains ostéopathes, pas tous les ostéopathes, parce qu'on a des visions différentes des fois, malheureusement. Faire craquer, à répétition, ce n'est pas bon effectivement pour votre corps. Puisque si on vous fait craquer, j'ai l'exemple de certains patients qui viennent me voir, ils disent qu'ils sont allés par exemple une fois par mois chez l'ostéopathe, c'est pas normal, et l'ostéopathe n'a aucun scrupule en plus, alors je ne cite pas de nom, à faire craquer tous les mois. Faire craquer souvent, ça crée des voies de passage. Et votre passage, un peu comme quand vous faites craquer vos doigts régulièrement. Si vous les faites craquer, ça vous fait du bien sur le coup. Si vous le faites plus, ça vous gêne. Et donc, faire craquer une cervicale, une dorsale, à répétition, ce n'est pas bon. Il faut le faire craquer quand il y a besoin. De manière générale, quand on fait craquer, on reproduit le mécanisme inverse de blocage. Et en général, vous ne bloquez pas tout le temps, vous n'avez pas tout le temps, après un accident ou une chute, vous n'avez pas tous les jours des chutes.
Donc, si je comprends bien, les séances d'ostéopathie sont quand même limitées, par exemple, dans l'année, ou par exemple, si une personne a des problèmes de dos, on ne doit pas se rendre chez un ostéopathe tous les 3-4 matins, quoi.
Dans la majorité des cas, oui. Un patient, on va dire, en bonne santé, je ne sais pas, entre 20 et 40 ans, qui n'a pas trop d'antécédents, qui a juste un métier physique, mais pas trop d'antécédents médicaux, sans maladie chronique, n'a pas besoin d'aller chez l'ostéopathe tous les matins. Après, il peut y avoir un contexte effectivement, je sais pas, où c'est plus compliqué à travailler si le patient est sur un terrain de burn-out, dépressif, ce que vous voulez. Donc lui, il peut nécessiter un suivi plus, on va dire, sur de plusieurs séances dans l'année, comme des patients qui ont des maladies chroniques que je suis, qui ont la polyarthrite rhumatoïde, des maladies auto-immunes inflammatoires où on vient soulager leur quotidien, ou ceux qui ont de l'arthrose, c'est plus fréquent, c'est plus connu. Eux, on peut les suivre pour les soulager. Mais pour une sciatique, un lumbago, en général, les patients qui ont un ostéo ne se plaignent pas et n'y vont que 2-3 fois dans l'année maximum.
En fait, ça fait déjà un petit moment, je vais donc tout simplement mettre une courte pause musicale pour que nos auditeurs puissent aussi souffler et respirer et prendre toutes ces informations.
Très bien.
Après la pause musicale, on repartira plus précisément sur du coup le sujet d'aujourd'hui. Donc là, en fait, le but était d'abord de présenter effectivement ta profession parce qu'elle était méconnue. Et donc après la pause, on se retrouve pour parler plus précisément de la santé de manière plus générale et pour l'instant tout simplement à Truy, et après on développera encore. Voilà, donc là pour l'instant je vous passe le groupe The Moonfingers avec le morceau Monsieur Benson.
Hello, Mr. Benson, do you know my name? Don't try to recognize my voice, no, 'cause we never met. I see you've got a steady job for the BOATA. Congratulations, sorry, Mr. Benson, what a boy I am. Just myself, so I must apologize. Men of them what they used to be nowadays. Times are changed. Bye bye, Mr. Benson. See you next Monday.
Bonjour, donc rebonjour, rebonjour plutôt, donc juste après cette petite musique. Alors nous sommes toujours avec donc Julien Crapard, l'ostéopathe donc de Truy. Je sais pas si on peut dire de l'ostéopathe ou je sais pas comment te faire te présenter.
Oui, ostéopathe c'est très bien. Après toi bien sûr, je te connais un peu plus donc tu peux très bien m'appeler Julien, il n'y a pas de souci. En plus je suis jeune donc il n'y a aucun problème là-dessus.
Il se vante à l'antenne, tu as vu Adeline?
Ouais, non, c'est terrible parce qu'il est plus jeune que nous.
Mais voilà. Et donc Adeline Fouquet qui est encore avec moi aujourd'hui pour la technique.
Et oui.
Qui assure, qui
et
assure.
C'est ce que j'allais dire, et j'assure quand même.
Et donc moi-même, Benjamin Jardet, animateur de Truy du coup. Avant donc la pause musicale, on parlait en fait donc de l'ostéopathie, qui est ton domaine de prédilection à présent.
Oui.
Et donc on va se diriger tout doucement pour parler en fait de manière plus générale donc de Truy et tout simplement de la santé d'une manière générale sur Truy. Comment se porte l'accès à la santé et l'accès aux soins sur la commune de Truy?
Bon, alors sur Truy, malheureusement, on n'est pas très bien, on va dire, loti niveau profession de santé. Pour l'instant, on n'a que des infirmières qui sont très gentilles, mais...
C'est vachement quand tu dis ça quand même. Elles vont t'en vouloir.
Non, parce que bon, par exemple, on parlait tout à l'heure de maison pluridisciplinaire. Pour qu'il y ait une maison pluridisciplinaire de santé, il faut collaboration obligatoire infirmière-médecin. Donc, elles sont importantes quand même.
Ah oui.
Sur Truy, les médecins, il n'y en a pas. A priori, je crois même qu'il n'y en a jamais eu. Après, le fait qu'il n'y ait pas de médecin en soi, est-ce que c'est grave pour l'accès aux soins? Bon, c'est vrai qu'il y a une au bourg de Truy, il y a une population, on va dire, assez âgée. Donc, effectivement, s'il y avait un médecin, il y aurait le contexte de proximité et ça les rassurait peut-être. Après, par rapport aux nombreux patients que j'ai, on va dire, finalement, on remarque que beaucoup de patients ne vont pas forcément voir le praticien de leur ville. J'ai des patients de Truy qui peuvent avoir des médecins de Tours, de Loches, de Èves, de toutes les villes aux alentours, même plus loin certains. Certains médecins que je connais ou qui travaillent un petit peu en collaboration avec moi, ils sont le seul de la ville, par exemple on va dire à Dolu-le-Sec ou Reignac-sur-Inde, pardon. Et malheureusement, les patients ne vont pas forcément voir leur médecin. Donc après, c'est vrai que ça pourrait être bien d'avoir un médecin sur Truy.
Mm-hmm.
Mais pour l'instant, je pense que ce serait plus pour les rassurer, mais en réalité, il y a quand même un choix. Après, on parlait aussi de la désertification tout à l'heure.
Non, en tout cas, oui, c'était le fait d'aborder que, d'une manière générale, effectivement, on peut constater que à Truy, du coup, à part... donc là, maintenant, on va avoir des infirmières, comme tu le disais, on a la MARPA, qui permet quand même de prendre en charge les personnes âgées. On a quand on remonte un peu plus haut, on a maintenant un vétérinaire. Bon, bien sûr, il ne s'occupe pas des humains.
Il a déjà les vétérinaires à l'époque pouvaient recoudre les patients.
C'est vrai. Mais alors là, on est vraiment dans. Je suis pas certain qu'au niveau légal, ils aient encore le droit de faire ce genre de choses.
En cas de guerre, ils pourraient.
Et donc effectivement, donc en cas de guerre, effectivement, il y aurait le vétérinaire qui pourrait assurer éventuellement une relève. Mais c'est vrai que bon, on a, comme tu parlais des désertifications, on a un manque cruel de quand même de médecins sur Truy.
Oui, ça serait bien que prochainement des médecins rejoignent cette commune. Malheureusement, au niveau de l'agence régionale de santé, pour eux, c'est pas pour l'instant dramatique. Considère, suivant le découpage communauté de communes, que finalement à Èves, à Èves, il y a ce qu'il faut, et c'est par rapport au découpage qu'ils ont fait, il n'y a pas de d'urgence. Sauf que quand vous discutez avec les professionnels de santé sur place, les médecins, les dentistes, que vous voulez, on dit ça, hein, dans 10 ans, il en restera par exemple sûrement plus qu'un sur Èves, et donc du coup, ça va poser un problème. Ils vont petit à petit, pour l'instant, ils s'alarment pas, et ce sera dans 10 ans qu'il n'y aura plus personne qui vont s'alarmer là-dessus, par contre. Monsieur de Colbert, donc du coup, le maire de Truy, justement, a voulu me faire venir. On a discuté, ça s'est très bien passé. Et il a pour objectif de dynamiser cette ville et les alentours en créant peut-être un rassemblement, une maison pluridisciplinaire, un pôle santé, le statut est à définir. Et les autres médecins aux alentours seraient favorables à cette implantation.
Donc l'idée, c'est de rassembler par exemple des médecins généralistes d'Èvre, pourquoi pas donc vous donc, en tant qu'ostéopathe et dentiste ou je ne sais quoi, dans un même pôle quoi.
Alors l'idée c'est ça, ça serait de créer une sorte de zone attractive qui fasse un peu aimant au niveau des professionnels de santé, où le patient pourrait aussi bien aller chez son podologue, avoir une salle d'attente commune avec le médecin, l'ostéopathe. Donc ça permettrait de créer, on va dire, un site qui vont réduire les charges de chaque professionnel, attirer les professionnels et le patient, a priori, gagnerait, on va dire, en accessibilité, en soins. Le souci de ça, alors ça, c'est un avis qui, du coup, est partagé par d'autres médecins alentour, c'est que si vous créez un pôle santé, par exemple, à Truy, donc je ne sais pas, dans les années à venir, dans 2-3 ans, c'est que les professionnels déjà installés, alors il peut y en avoir de Èvre, de Reignac, d'Olu, Cormerie, Toxigny,
oui, autour, oui, effectivement.
Voilà, où l'implanter. Parce que si vous faites ça, vous prenez les peu de médecins ou professionnels déjà existants, vous les mettez à un endroit, je dis comme ça, à Cormerie ou Reignac, vous faites comment pour les médecins qui sont installés à Dolu, Chambourg, ou les autres professionnels qui sont installés plus dans le côté sud, parce que du coup ça, le souci c'est que ces médecins là qui sont déjà les seuls dans leur ville, ils vont devoir quitter leur cabinet pour aller en pôle santé ou en maison, et les autres vont complètement être délaissés après. Ils vont devoir faire quelques kilomètres pour aller tout au nord.
Tu veux dire ceux qui seront pas en gros ceux qui vont rester en fait dans leur site initial et qui ne feront pas le déménagement en quelque sorte dans ce pôle de santé quoi.
Ah, c'est tous ceux plutôt qui vont partir de leur cabinet, qui vont devoir les fermer.
D'accord.
Et qui vont abandonner leur ville, alors qu'ils font 1000, 2000
habitants. Et leur clientèle et
les patients. Malheureusement, ils vont pas faire 10 km, 20 km des fois pour retrouver leur médecin.
Je vois.
C'est un risque. C'est un avantage. D'ailleurs, c'est très à la mode. Hein. Dans les années à venir, l'État va financer énormément de maisons comme ceci. Mais le souci, c'est que, à côté de ça, vous allez créer des grosses zones et ça va encore plus désertifier les. Finalement, pour l'instant, une sorte d'équilibre qu'il y a un médecin dans chaque petite ville. Bon, malheureusement, on n'en a pas à Truy, mais il y en a juste à côté, à Cormerie.
Alors, j'ai un truc. En fait, ça me fait penser un peu au même processus qui s'était passé au niveau des marchandises, où avant on avait une épicerie un peu partout et puis on est passé au centre commercial en quelque sorte.
Oui.
Du coup, est-ce qu'on pourrait avoir aussi les mêmes problèmes, effectivement, qui sont on va avoir des personnes qui éventuellement ont des difficultés de déplacement. Comment vont-ils faire pour aller à ce centre? Est-ce qu'il y a des systèmes qui vont être mis en place éventuellement pour pouvoir les emmener, ou un genre de ramassage, je ne sais pas.
Par exemple, on a déjà le cas ici. Hein. J'ai des patients que je suis qui souffrent de pathologies assez graves et qui sont incapables de se déplacer. Et si ça ne colle pas avec le professionnel qui peut se déplacer sur la ville, j'ai l'exemple de plusieurs patients, je ne dirai pas, mais ça ne colle pas par exemple avec le kiné ou le médecin, et malheureusement, ils ont personne, donc ils n'ont plus de soins.
D'accord.
Il y a la possibilité de faire un bon taxi remboursé par la sécurité sociale, mais c'est pas toujours le cas, c'est sous réserve. Donc là, par exemple, pour ma patiente à laquelle je pense, ce n'est pas possible. Ça pose un problème, oui.
Effectivement, oui. Alors, du coup,
c'est quand même compliqué finalement de se faire soigner quand on habite dans des communes, on va dire, assez rurales.
Disons que c'est effectivement très compliqué. On a moins de variété de choix. Si ça ne nous colle pas, malheureusement, on n'a pas le choix. On doit continuer. Sinon, vous n'aurez pas de soins, effectivement.
Oui, tu veux dire qu'on peut moins choisir ces praticiens, en tout cas, où on est plus ou moins imposé.
Exactement. Les différents professionnels, on va dire, existants, honnêtement, pour vivre, ils n'ont pas besoin d'être bons. Ils ont juste besoin d'être là.
Oui.
Sans forcément dire qu'ils sont moins bons ou quoi. Mais,
dû au manque d'effectifs, tu veux dire.
Effectivement. Oui. Les médecins, ils sont tous d'accord pour dire que ça va être de pire en pire. Ils font déjà 12 heures par jour, plus leurs réunions, plus leurs astreintes de garde. Et ça va être pire, donc c'est compliqué. Ouais.
Déjà, moi, j'avais été étonné, en fait, de... Enfin, je veux dire, tu es là depuis... combien de temps? 6 mois?
J'ai ouvert début novembre, oui, effectivement.
Voilà. Depuis début novembre, et déjà, tu as déjà une bonne clientèle. Il y a déjà... Enfin, tu as déjà beaucoup de... Je sais que tu fais beaucoup d'heures, ce qui veut dire que ça peut te faire partir sur ta vie après, toi, privée, en tout cas. C'est compliqué du coup d'arriver comme ça, de se retrouver avec beaucoup de patients, devoir gérer un nombre d'heures important.
Disons que quand on ouvre un cabinet tout seul, alors, en dehors, avec aucune personne pour vous aider, honnêtement, pour commencer, hein, les autres professionnels, vous n'avez aucune salle d'attente avec eux, vous ne connaissez personne. Moi, le territoire sud de Tours, je ne connaissais pas. Faire beaucoup d'heures et avoir beaucoup de patients, finalement, ce n'est pas un problème, ça fait même plutôt plaisir, parce que c'est plutôt une profession, on va dire, gratifiante. Ça fait plaisir quand le patient, il repart et qu'il va mieux, ou qu'il vous envoie sa maman, sa famille, ses amis. Faire beaucoup d'heures, ça ne dérange pas les différents professionnels que je connais et moi-même.
Quelle population tu peux toucher? C'est vraiment des Troïciens ou ça peut être des alentours également?
Alors, j'ai fait un peu des statistiques puisque je suis curieux et j'aime bien ça. Finalement, les gens de Truie, ça reste une partie mineure de ma patientèle. Quand j'ai commencé, bien sûr, les 2-3 premiers mois, c'était une bonne partie. De toute façon, il fallait que le bouche à oreille se fasse et que mon réseau se monte. Et puis petit à petit, vous avez des professionnels qui travaillent avec vous. Les patients que vous avez traités connaissent des gens de différentes villes. Surtout dans les petites villes comme ça, ça parle très très vite en bien ou en mal. Alors pour l'instant, apparemment, ça se passe bien, donc c'est plutôt en bien. J'ai envie de dire que peu importe. Il y a des gens qui peuvent venir aussi bien de Loche, de Tours, des petites villes d'alentour, Reignac, Toxine, Cormerie, tout ça, Courcé, Saint-Bran. Toutes ces villes-là, on les touche. Et j'ai des patients qui font une heure et demie de route, ça ne les dérange pas. Pourquoi? Parce que on choisit son professionnel, alors pas vraiment parce que vous passez tous les jours devant, parce que bon, l'idée de construire par exemple quelque chose et de me déménager dans une zone de passage, ça peut être bien, mais c'est pas parce que vous passez tous les jours devant un endroit, une boulangerie, que vous arrêterez forcément de chez lui. Enfin, en tout cas pour un professionnel. La boulangerie, vous pouvez vous arrêter, mais pour un professionnel, vous pouvez passer
pas
tous les jours devant.
Chose,
ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'honnêtement, j'ai besoin pour vivre que des résultats et du bouche-à-oreille des patients. Et pas, donc les gens viennent de partout après.
D'accord.
Petit à petit, on fait son réseau. Chaque patient est important. On rencontre des gens de passage. Il y a des gens de Paris qui viennent là de temps en temps et qui régulièrement, du coup, reviennent vous voir parce qu'ils ont bien aimé la première consultation, par exemple. Donc, du coup, on va dire tout le monde.
Sur cette réponse, on va reprendre une petite pause musicale pour pouvoir souffler un petit peu. Donc, je vous mets... Alors, si ça y est, j'ai le nom. Je vous mets Looping Rob Ipsos. Donc, ça serait l'album Being the Hall et le morceau Avion de papier. Allez, tout de suite.
a des murs dans nos chambres, mais pas dans l'imagination. Les soucis des adultes ne sont que machination. Je voudrais être le chinois dans les Goonies, toujours le sourire des gadgets par milliers d'hippies. Donc je vis à fond, je veux être pilote de ligne. On me dit ah bon, oh parfait. Ton père c'est pas Rothschild, donc je fais des avions de papier. Des rouleaux de PQ en guise de canon en acier. Je veux me barrer même si je sais que mon daron en a chier. Faut que j'appelle Rob, c'est un pote du hood. Il habite en face donc on parle dans des pots de yaourt. On se prépare à un long voyage donc il faut de la bouffe. Des barres chocolatées à coco dans le sac à dos, lui dessine les plans. Moi j'esquive les gens et leurs questions trop indiscrètes. Je prépare mes projets en sous-marin même si je sais que mes copains me disent bête. Je leur mets trop plein de disquettes.
Tu veux que je l'emmène chez moi là? J'ai une cassette vidéo super bien, The Sidehunters. C'est une soucoupe volante qui atterrit. Et il y a non, il y a un super mutant. Mais tu sais, il a deux.
Et yo les photos, quand est-ce qu'on se fait la malle? Y'a pas photo, quitte à faire un putain de scandale. La tête à Toto, pense qu'à mettre les voiles. Après en auto, en vaisseau vers les étoiles. Yo les photos, quand est-ce qu'on se fait la malle? Y'a pas photo, quitte à faire un putain de scandale. La tête à Toto, pense qu'à mettre les voiles. Après en auto, en vaisseau vers les étoiles.
Soyez les bienvenus. Elle sait.
J'mate la télé car avec les fumées d'usine et les lumières de la ville, je ne vois plus les étoiles. Obnubilé, j'passe pour un filet parce que je ne parle que de Mars, Saturne et Jupiter. Et jubile à l'idée d'un voyage dans l'espace. En journée, j'griffonne des schémas en fond de classe. En soirée, j'décolle Tintin, pas moyen, j'retourne au sol enfoiré. Nous sommes les as des astronautes en culotte courte. Une carte spatiale avec des balles de tennis et des ballons de foot. Ouais, ouais, j'vais galérer, mais j'ai des potes pour m'aider. Sauce pour bricoler. Des après-midi entiers à fouiner dans les greniers pour ramasser des pièces détachées sous le sommier. Une lampe torche sous la couette, je m'attelle à des brouettes telles que faire un train d'atterrissage avec une brouette. Un châssis en bois de, des petites ailes en bois bleu, une toiture en toile pour mettre les voiles. Et yo les photos, quand est-ce qu'on se fait la malle? Y'a pas photo, quitte à faire un putain de scandale. La tête à Toto, pense qu'à mettre les voiles. Après en auto, en vaisseau vers les étoiles. Et yo les photos, quand est-ce qu'on se fait la malle? Y'a pas photo, quitte à faire un putain de scandale. La tête à Toto, pense qu'à mettre les voiles. Après en auto, en vaisseau vers les étoiles.
De retour sur la rage, donc 97.4 ou donc la-rage.fr, toujours en compagnie de Julien Crapard. Bonjour, rebonjour,
rebonjour. Hein,
voilà. Donc l'ostéopathe de Truy et ma collègue Adeline Fouquet, l'animatrice de Èvre, et moi-même Benjamin Jardet, animateur de Truy. Donc avant que je mette cette pause musicale, Adeline, j'avais une question à poser à Julien.
Oui, tout à fait. Julien, tout à l'heure, tu nous disais que, en gros, dans 10 ans, la santé sur le sud de Tours, donc Truy, Èvre, Cormeray, etc., ça sera catastrophique. Et ma question était, pourquoi les médecins ne viennent pas s'implanter, en fait, sur ce territoire-là? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne viennent pas? Parce que, pour le coup, toi, ça a l'air de bien fonctionner, donc pourquoi pas d'autres?
Alors, juste pour préciser pourquoi ça sera rouge, hein, c'est parce que la plupart des médecins sont assez âgés dans cette commune, par exemple à Èvre, ou même le médecin par exemple aussi à Toxigny va partir en retraite d'ici 6 mois. Et tous ceux qui ont plus de 50 ans ou 55, tout ça qui vont partir en retraite ne sont pas remplacés. Ils ont été contents d'ailleurs qu'il y ait un médecin à Èvre prenne le relais, ce sera le seul qui restera après. Parce que non, avant la patientèle se revendait, maintenant ne se revend plus. Les médecins, pourquoi ils s'installent pas effectivement dans ces milieux-là? C'est que malheureusement, Ils ont un tel choix que pourquoi iraient-ils s'installer dans des petites communes comme celle-ci ? Qu'ils soient en grande ville ou en petite ville, peu importe l'endroit où ils s'installent, où ils vont s'installer, ils n'auront aucun problème à avoir leur patientèle. Donc pour ça, par exemple, il y a des moyens qui ont été mis en place pour essayer de les attirer dans les petites communes. Par exemple, on va prendre un exemple de l'agence régionale de santé qui, des fois, fait des prêts à taux zéro et donne des bourses à certains jeunes futurs médecins, des internes. Il leur donne de l'argent ou leur propose un crédit très intéressant pour leurs études, pour un appartement, ce que vous voulez. Mm-hmm. Sous certaines conditions, par exemple, s'installer dans des zones de cas de désertification. Je connais le cas de certaines personnes qui vont prochainement devoir s'installer justement dans ce milieu où il manque du monde parce qu'ils ont, on va dire, pied et main liés avec un prêt. Et donc, du coup, elles doivent s'installer par ici.
D'accord. Et je voulais savoir, du coup, comment monsieur de Colbert t'avait rencontré. Enfin, comment justement les maires de différentes communes peuvent rencontrer des généralistes ou des praticiens pour les faire venir.
Alors, pour ma part, je l'avais contacté. Hein, je l'avais contacté lui disant que sa commune m'intéressait, que j'avais envie de m'investir dans une petite commune, puisque j'avais pris le pari de partir sur une petite ville, entre guillemets, pour. Je me doutais bien que dans ces petites villes-là, il y avait une sorte de croyances, de l'ostéopathie, il y en a plein des patients qui me font, qui pensent qu'on fait du magnétisme, tout ça. Donc en fait, ils sont très ouverts à notre profession. Après, monsieur de Colbert, alors je connais pas très bien comment il a pu essayer d'appeler ou attirer les autres médecins. En l'occurrence, je crois que c'est même les deux filles, je ne citerai pas, mais qui l'avaient contacté. Donc je suis pas sûr que finalement les maires soient eux qui s'en occupent. Lui, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, donc c'est son premier mandat, il a envie de s'investir et de dynamiser sa ville. Donc il a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, mais après, à côté de ça, est-ce qu'il a les moyens, je ne sais pas, pour faire venir en tout cas les professionnels de santé. Surtout, il y a un coût financier quand même, parce que construire quelque chose, si la mairie porte un projet, il faut que les habitants soient d'accord, entre guillemets, quoi, parce qu'il faut ça demande un certain investissement. Les médecins ne veulent pas investir 0 euro, 0 centime, puisque comme ils sont demandés ailleurs, partout, si vous leur faites payer, vous leur proposez rien sur un plateau, ils iront voir ailleurs.
Ah oui, c'est à ce point-là, quoi.
Ah, c'est
vraiment,
carrément à ce
on a besoin partout, quoi.
En disant qu'on les accueille à bras ouverts, maintenant, les professionnels, les médecins, les généralistes,
d'accord,
que vous voulez.
Oui.
Alors, on parle en fait tout à l'heure depuis tout à l'heure du coup de milieu rural, tout ça.
Ouais.
Est-ce qu'il est possible juste que je donne une petite définition histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde ?
Eh bien, justement, je te laisse effectivement parler de la rurale. Je parlerai de la périurbaine. On se partage là.
Donc, le milieu rural, donc c'est la campagne, aussi appelée milieu campagnal ou le milieu rural pour le coup, ce qui désigne l'ensemble des espaces cultivés et habités. Donc, elle s'oppose au concept de ville, de l'agglomération ou du milieu urbain. La campagne, elle est caractérisée par une faible densité, donc par rapport au pôle urbain environnant, par un paysage à dominante végétale, donc forcément il y a les champs, les prairies, les forêts, etc. Mais également par une activité agricole dominante, au moins par les surfaces qu'elle occupe et par une économie structurée plus fortement autour du secteur primaire. Donc voilà, histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde.
Exactement. On sache de quoi on parle.
Voilà, tout à fait.
Et donc, en lien avec la même question qu'aujourd'hui, donc rural ou périurbain, s'oppose donc le phénomène lié à la rurbanisation. Alors bon, c'est un mot qui a été inventé en 1976, parce qu'effectivement les choses changent. Donc en fait, ça désigne tout simplement le processus de retour ou fuite des citadins vers la campagne, ou pour faire plus simple, c'est le déplacement durable, donc sur le long terme, de populations quittant des zones urbaines pour ensuite aller s'implanter en zone rurale. Donc en fait, ça a beaucoup bougé, ça à partir des années 60 à 70, où en fait la qualité des milieux ruraux s'est améliorée. Voilà. Donc globalement, On va dire que c'est en fait, on a deux mouvements. Le rural, c'est vraiment donc la partie végétalisée finalement et agricole. Et le périurbain, on est sur une migration essentiellement, mais qui crée effectivement des nuances dans la vie d'une ville. En fait, on le citait hier, je ne sais pas si tu as écouté les émissions d'hier.
Ah, malheureusement, je travaillais.
Tu travaillais. On citait justement, il y avait donc monsieur Verrier qui était là, qui me disait qu'il y a encore, dans les années justement 50-60, oui. On avait, alors je crois que les chiffres c'était entre 40 ou 70 donc fermiers sur la commune de Truy. Alors aujourd'hui, ils ne sont plus que deux.
Ah oui.
Voilà. Donc, est-ce qu'on peut encore parler de commune rurale ? Alors qu'en fin de compte, sa principale activité n'est plus la culture, mais bien, du coup, l'habitat, peut-être.
Oui, on a plutôt l'impression que maintenant, Truy ou ces petites villes d'alentour, c'est plus des villes dortoirs. D'ailleurs, beaucoup d'anciens habitants de ces communes-là se plaignent de l'arrivée de nouveaux habitants, qui au final... c'est plus... oui, effectivement, c'est dortoir. Hein. On ne peut plus dire que c'est milieu rural, maintenant, finalement, je pense.
D'accord. Oui, alors effectivement, c'est Madame De Colbert qui va arriver. Elle arrive. Donc, tu nous disais qu'effectivement, toi, tu voyais plus vraiment, effectivement, truc comme un milieu rural, quoi.
Oui, bah, on a beaucoup de professionnels. Hein. Honnêtement, j'ai très peu de personnes qui sont dans le milieu primaire. Hein. C'est plus j'ai des infirmières, il y a des médecins, il y a plein de monde qui travaille dans le coin et ils n'exercent aucune activité, on va dire, rurale.
Oui, bah, c'est ça, oui. Donc, du coup, dans la question, toujours, entre donc, rural et périurbain, est-ce que tu penses que par rapport aux définitions qu'on a données, on peut dire que Truy est réellement en train de passer du côté périurbain ou est-ce que
en tout cas, je ne pourrais pas dire que c'est rural. Hein. Donc plutôt, on va dire périurbain par élimination.
Donc Madame De Colbert vient de nous rejoindre. Alors elle s'installe. elle met son casque et elle va nous rejoindre tout de suite. Alors, je vous en prie, prenez le micro.
Bonjour.
Bonjour, Madame De Colbert. Alors, est-ce qu'on entend bien Madame De Colbert ? Parce que je ne suis pas certain.
Je ne crois pas.
En fait, on est obligé de faire ça, du coup, en direct. Donc, chers auditeurs, voilà. Donc, effectivement, bien se rapprocher du micro. Et normalement, je vous en prie. Ah, alors, je vous entends. Ah, mais attendez, est-ce que votre micro est branché, justement ? En fait, il faudrait juste... Il y a le bouton au-dessus. Amenez-le vers vous.
Bonjour.
Ah, voilà, là je vous entends. Je vous entends. Pas très fort encore, mais je vous entends. Mais Adeline va nous faire tout ça. Alors, du coup, ravi de vous avoir autour de cette table.
Merci d'avoir pensé à moi.
Bah, écoutez, non, en fait, c'est que sur le moment, j'étais très intimidé en fait, par votre présence. Je me suis dit quand même, voilà, grande dame de Truy, vous êtes là depuis maintenant un bon moment. Votre famille est présente aussi depuis un certain nombre d'années sur la commune de Truy. Mais du coup, je vous laisse peut-être vous présenter, vous serez la mieux placée.
Merci. Oui, donc Catherine De Colbert, moi je suis d'origine de Truy. Mon père est né au château de Bélair. Et la famille a une tradition sur Truy, puisque c'est lié à l'histoire de la cartonnerie Houdin. Donc j'expliquerai un petit peu plus en amont de mon intervention. Écoutez, moi j'ai une cinquantaine d'années, j'ai une formation école de commerce. J'ai commencé à travailler dans le domaine de la logistique et des achats. Dans le domaine du textile.
D'accord.
Et pendant 4 ans où j'ai beaucoup voyagé, ce qui ouvre l'esprit, ce qui est intéressant. Et ensuite, j'ai rejoint un groupe industriel où je vendais des produits liés un peu au papier, etc. Et je suis arrivée au sein d'entreprises familiales à partir de 89 où j'ai... développer les ventes et tout ce qui était export. Et ensuite, j'ai pris des fonctions plus administratives et financières, assez larges, pour pouvoir aussi m'occuper de mes enfants. Et parallèlement à tout ça, j'ai toujours continué à me former. D'abord, bon, j'avais une formation plus financière au départ, donc j'ai fait du marketing. Et puis, je me suis beaucoup intéressée aux relations humaines, ce qui fait que j'ai obtenu des certificats hein, pour accompagner le changement, la connaissance des personnes, etc.
De quel type ?
C'est plus lié à la psychologie, mais puis l'accompagnement du changement en entreprise.
D'accord.
Et j'ai depuis également pris, été invitée. En fait, finalement, je me laisse guider par rapport aux propositions qui me sont faites. Et j'ai collaboré à l'écriture d'un livre qui s'appelle « L'entreprise au cœur de la vie » qui est sorti en 2008, qui m'a ouvert beaucoup de portes pour promouvoir le monde de l'entreprise. Qui pour moi, une entreprise, c'est une communauté humaine. D'abord, ce sont des hommes et des femmes hein, qui sont là et pour eh bien, travailler sur une même finalité qui est servir un client. Tout en exerçant leur talent.
Mmh.
Je pense que ça, c'est très important. Hein, l'idée de talent, de découvrir ses talents, de les cultiver, de les enrichir, d'en cultiver d'autres. Voilà.
C'est une notion qui est, je dirais, ancestrale et qui s'est plus ou moins perdue, en fait, dans la nouvelle manière de fonctionner en entreprise. Mais effectivement, tout ce qui était artisanat à l'époque, justement, leur reconnaissance, leur première reconnaissance, c'était la qualité de leur travail.
Tout à fait.
Et,
c'était l'apprentissage.
Voilà.
Il y a des livres fabuleux. Moi, j'ai en tête là, un livre que j'ai lu de Jean Divot, qui était un ancien journaliste, qui c'était l'histoire des Stradivarius, donc des violons.
D'accord.
Il expliquait, hein, ça se passait en Italie, et il expliquait l'apprentissage pour apprendre à construire ces fameux violons, il fallait 7 ans.
Oui, bah, oui.
7 ans pour un jeune, pour apprendre vraiment et être reconnu comme capable. Mais je pense que cette notion de transmission du savoir, du transmission du savoir-faire, de la reconnaissance, etc., nous avons beaucoup à réfléchir à ces niveaux-là. Je pense que si on se recentrait au niveau des entreprises, à prendre l'expérience de nos anciens, ça nous apporterait beaucoup.
Mais en tout cas, vous savez, je trouve ça génial parce qu'en fait, par rapport à ce que Monsieur Verrier, ce qu'on avait Monsieur Verrier qui était venu hier pour intervenir sur du coup l'historique de Truy, donc forcément, votre famille y est un petit peu passée, la cartonnerie Houdin également. Et ça colle parfaitement en fait à du coup l'esprit que vous voulez apporter parce que ces dires étaient voilà, c'était une entreprise humaine où la distance entre finalement l'ouvrier et le patron n'est jamais très très grande à parcourir et que finalement voilà, lui dans toute sa carrière
dans l'entreprise.
C'était quand même senti écouté et accompagné en fait par les différents patrons qu'il a pu donc voir, parce que je crois qu'il reste 30 ou 40 ans dans...
C'est ça. Une quarantaine d'années, on va dire.
Voilà. Ouais. Donc, moi, ça me fait plaisir, en fait, de pouvoir entendre, effectivement, ce genre de discours venant de la classe patronale, en quelque sorte. Je ne sais pas comment trop la définir. J'ai cru entendre aussi...
D'entrepreneur.
Entrepreneur,
voilà.
On va
J'aime
dire
bien
ça,
ce mot, parce D'accord. que, finalement, entreprendre...
Oui. Parce que le terme patron est plus ou moins connoté, je trouve,
voilà.
négativement.
Je trouve qu'il faut sortir de ce terme.
Oui.
Et entreprendre, et finalement, on peut tous entreprendre. Bon, c'est comme dans un avion, il faut un pilote.
Oui, c'est ça.
mais tout le monde peut exprimer et collaborer. Hein, je pense que cette notion est très importante.
Merci beaucoup du coup pour votre présentation. Je vous réintroduis un petit peu finalement où est-ce qu'on en était en fait au cours de l'émission. avant. J'adore. En fait, c'est ça qui est génial dans le direct, c'est que du coup là, j'ai ma collègue qui me dit attention, pause musicale, parce que ça fait un moment déjà qu'on parle. Donc du coup, je vous lance sur Piano Chat. Hein. Piano Chat, ça va être tout doux, ça va vous permettre de vous préparer l'esprit à la suite. Donc on reviendra du coup avec Madame de Colbert et donc Julien Crapard, et on reparlera du milieu donc périurbain et rural. On finira par définir ça pour ensuite passer de manière plus précise à vos avantages et inconvénients. Voilà. Donc à tout de suite, Piano Chat, nous y perdrons un peu.
Yeah.